Investigation, Justine Katz.
Bonjour et bienvenue dans ce podcast de la cellule investigation de la RTBF. On vous emmène aujourd'hui sur le chantier d'une gare bien connue en Wallonie, la gare de Mons. Un chantier qui a fait couler beaucoup d'encre et pour cause. Il a commencé il y a plus de 10 ans. Son inauguration était prévue en 2015. La gare devrait enfin être inaugurée à la fin de cette année 2023. 8 ans de retard donc et un budget qui a littéralement explosé. On est passé de 37 millions d'euros à la base, à un budget qui atteint aujourd'hui les 348 millions d'euros. C'est pratiquement 10 fois plus. Alors comment en est-on arrivé là? Concours truqué, irrégularité dans le marché public, manque de transparence. Un audit de la Cour des comptes publié en septembre 2022 dresse un bilan très critique de la gestion de ce dossier. Est-ce que quelqu'un va devoir rendre des comptes? Comment faire mieux à l'avenir? On en parlera avec nos invités dans la deuxième partie de ce podcast. Mais d'abord, Martin Collier est avec nous. Vous êtes journaliste, c'est vous qui avez mené cette enquête pour Investigation. C'était en 2020, il y a 3 ans déjà. Alors ce chantier de la gare de Mons, il en est où aujourd'hui?
Eh bien, il avance même plutôt bien, il faut le dire. Personnellement, je suis montois, je travaille fréquemment à Mons et donc depuis notre enquête, eh bien, je le vois, les choses semblent avancer. Une nouvelle entreprise portugaise a notamment repris la construction de la charpente métallique, on va en parler un peu plus tard. C'est un des postes qui a fait perdre beaucoup de temps sur le chantier. Donc, depuis que cette société a repris le chantier, eh bien, les choses avancent. La couverture des quais est pratiquement terminée. Après, bien sûr, il reste quand même encore des choses à faire avant la mise en service de la gare. Finir de poser les vitres, par exemple, installer les ascenseurs, terminer les accès au parking. On n'est donc pas encore au bout du chantier. D'ailleurs, lors de notre enquête, la SNCB avait annoncé une fin des travaux en juin 2023 et forcé de constater qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Il a même fallu rénover la gare provisoire, qui a donc, elle, 10 ans aussi, et ça a quand même coûté 280 000 euros. Alors dans le quartier, forcément, on désespère un peu.
On va entendre les Montois justement dans un instant. Gare de Mons, le prix de la démesure. C'est notre investigation du jour. Elle est signée Martin Collier, Arthur Gillet et Amaury Boucher.
C'est un quartier que je connais bien, celui de la gare de Mons. Et lorsqu'on s'y promène, impossible de la rater. Elle surplombe la place Léopold, toujours en travaux. Elle, c'est la gare de Mons. Enfin, la future gare. Parce qu'il faut bien le dire, les Montois l'attendent depuis pas mal de temps.
Ça devait être terminé, je sais plus, depuis 2015 ou je sais plus, un truc comme ça, ouais. Ça a quand même mis du temps, mais là, je pense que les travaux, ils avancent bien.
On attend depuis beaucoup de temps, 10 ans du coup. Ça prend du temps, mais on voit que c'est pas pour rien.
Quand je vois le coût qu'elle coûte finalement, qu'on aurait peut-être pu arranger la seconde gare, moi je trouve que c'est un peu de l'argent un peu gaspillé. C'est trop, beaucoup trop.
Ça fait depuis 2015 qu'elle devrait être finie, mais depuis ces dernières années, je trouve que ça avance quand même un peu plus vite et ça fait plaisir de voir que ça va être bientôt fini et de voir que le coin de la gare va pouvoir un peu être remis à neuf, parce que je pense que les commerces tout près de la gare, ils sont aussi fortement touchés par ça, les travaux.
Et ce n'est pas Alicia Lazzaro qui va dire le contraire. Elle tient un café juste en face de la gare depuis 10 ans. Quand elle a commencé à travailler, le quartier était déjà en travaux.
On en a marre des travaux parce que ça dure encore et encore. Quand la gare va être finie, oui, ça va être bien, mais pour le moment, on a du mal en fait. Les gens, ils ne viennent pas trop. On perd énormément de clients.
Et au niveau du chiffre d'affaires, ça se ressent?
Ah oui, 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 il a bien chuté. Le cinquième de ce qu'on faisait avant, c'est sûr. 5 fois moins. On attend impatiemment la fin des travaux, si ça arrive un jour.
Et Alicia n'est pas la seule à s'inquiéter. Pourtant, dans le quartier, cette gare, on l'attendait. Elle aurait dû attirer les clients plutôt que les faire fuir. Alors comment expliquer que 10 ans plus tard, elle ne soit toujours pas terminée? Et puis, il y a son prix, 348 millions d'euros, au lieu des 37 annoncés à la base. Pour tenter de comprendre, je vous emmène sur le chantier de la gare. On est en 2020, et au moment où je réalise mon enquête, c'est Didier Malengré qui me sert de guide. Il est ingénieur projet pour Eurogare, la filiale de la SNCB, en charge du chantier.
C'est une gare passerelle qui permet de rétablir ce qui n'existait pas dans le passé, une liaison entre le nouveau quartier, je dirais, et les nouveaux développements côté Grand Pré, avec le côté ville, donc l'ancienne partie où l'ancien accès à la gare était.
C'est encore un peu confus, pas de problème, je vous explique. Pour résumer, on peut dire que la ville de Mons est coupée en deux par des rails de train. D'un côté, il y a la ville historique avec son beffroi et sa grande place. De l'autre, il y a le quartier des Grands Prés avec un centre commercial et de nouveaux logements. Le but de cette gare, c'est donc aussi de servir de passerelle afin de relier les deux quartiers. Mais le projet ne s'arrête pas là. L'idée, c'est d'en faire une gare multimodale où on peut prendre le train ou le bus sur le même quai. Une gare avec des parkings immenses pour accueillir les navetteurs, avec des accès faciles pour les personnes à mobilité réduite. Bref, une gare résolument tournée vers le futur. Et cette gare, elle n'est pas signée de la main de n'importe quel architecte. Son concepteur, c'est Santiago Calatrava. Son nom ne vous dit rien ? C'est pourtant ce qu'on appelle un architecte star. La Cité des Arts et des Sciences à Valence, c'est lui. Et puis il a aussi quelques gares à son actif. Celle de Grande Zero à New York, et chez nous, la gare de Liège-Guimard. Sauf que Santiago Calatrava n'a pas que des succès à son actif. Pour m'en rendre compte, j'ai pris la direction de l'Italie, direction Venise. Ah, Venise, ses gondoles, son pont des Soupirs, sa place Saint-Marc, mais aussi le pont de la Constitution, signé, tiens, tiens, Santiago Calatrava. Ce pont, Carmine Scarano le connaît bien. Lorsqu'il était procureur à la Cour des comptes, il a mené l'enquête sur sa construction.
Il y avait des problèmes de conception, de projet, qui ont provoqué tous les soucis d'exécution. On n'arrivait pas à construire les morceaux de ce pont pour les monter ensuite. Ce que j'ai vu pendant toutes ces années, c'est que Calatrava, de son sommet d'architecte star, n'est jamais venu dans les tranchées. Il n'est jamais venu lui-même contrôler les personnes. Ici, l'administration et les techniciens se sont donc retrouvés à devoir affronter des problèmes qu'ils étaient incapables de résoudre seuls, et donc les retards et les coûts supplémentaires se sont ajoutés.
Résultat, le chantier a pris 4 ans de retard et les budgets ont grimpé, passant de 4 millions d'euros à la base à plus de 10 millions au final. Un fiasco pour lequel Santiago Calatrava a été condamné. Il a même écopé d'une amende, 78 000 euros.
Le jugement souligne surtout la négligence professionnelle qui est incroyable pour une personne célèbre et un architecte de renommée internationale. Et ça, c'est l'élément le plus important.
Alors, avec ces éléments, j'ai eu envie de poser des questions à Santiago Calatrava. Et il faut bien le dire, ça n'a pas été facile. Après des mois d'échanges, de mails et quelques menaces de courriers d'avocats, j'ai quand même reçu quelques précisions par mail. Pour le studio Calatrava, si des modifications ont été apportées au projet du pont...
Aucune ne trouve son origine dans une erreur de conception ou dans un oubli de la part de Santiago Calatrava. Cette décision du tribunal prouve que l'augmentation des coûts et les retards sur le site du pont de Venise étaient dus à la mauvaise qualité des travaux de construction exécutés par l'entrepreneur.
Bon, sur le CV, quelques ratures donc. Mais alors comment Santiago Calatrava a-t-il été choisi pour dessiner la future gare de Mons ? Eh bien tout simplement grâce à un concours. Ça se passe en 2006. À l'époque, on ne parle pas encore de la construction d'une nouvelle gare. L'idée, c'est plutôt de conserver l'ancienne et de construire une passerelle à côté. Alors, la ville de Mons et la SNCB se lancent dans un concours. Plusieurs cabinets d'architectes postulent. Le concours est anonyme. Le but, garantir les mêmes chances à tout le monde. Parmi les candidats, il y a Joël Renaud. Et selon lui, le concours anonyme, c'est plutôt théorique.
Quand on fait appel à des architectes de renom ou qui ont une signature, comme on dit vulgairement, peut facilement se douter que ça puisse être la personne imaginée qui soit à la base de ce projet-là. L'architecture de Calatrava, on sait comment elle est, quoi.
Au final, c'est bien Santiago Calatrava qui est choisi avec un projet à 37 millions d'euros.
On se dit, ben oui, avec nos associés, nous ne sommes pas des stars telles que Calatrava. On était quand même un peu étonnés, mais on se dit, ben... Oui, il y a une recherche de vedettariat de stars, qui à l'époque était déjà bien connu, mais qui a pris de l'ampleur depuis, hein, parce que le star system en architecture, c'est devenu la règle. Hein.
Alors, Santiago Calatrava a-t-il été favorisé ? Cette question, je l'ai posée au président du jury, le bourgmestre de Mons à l'époque, Elio Di Rupo. Et je dois bien l'avouer, avoir une interview avec Elio Di Rupo, ça n'a pas été simple.
Les jurys étaient 11. 11 membres. Les 11 membres ont signé le privé, à l'unanimité. Personne n'a forcé personne. Vous comprenez ce que je veux dire ? On ne force pas 11 personnes. C'est pas comme si c'était 2 ou 3 personnes. Tout s'est fait d'une manière extrêmement, extrêmement correcte. Extrêmement correcte.
Et quand on voit quand même les personnes qui sont signataires, il y a notamment des personnes qui vous sont proches. Mais par exemple, Madame de Grove, Monsieur Lambert.
Qui ça ? Mais il est CEO d'Inframel. Hein ? Qu'il me soit proche ou qu'il ne me soit pas proche, ça n'a pas d'importance. D'abord, s'il n'est pas proche, c'est quelqu'un que je connais très bien, mais il est CEO d'Inframel, c'est pour ça qu'il est là. Il n'est pas là pour me faire plaisir.
Certains parlent de la gare de Mons et de la gare commandée par M. Di Rupo. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces opposants ?
Écoutez, je n'ai jamais eu la prétention d'être aimé par 100% de la population de Mons. Je n'ai jamais eu cette prétention-là. Qu'il y ait des gens qui ne m'aiment pas ou qui ont envie de colporter des bruits, ça fait partie de la vie, c'est tout. Si c'est du bavardage, bon, c'est comme la chanson de Dalida. Parole, parole, parole.
Alors, la personnalité d'Elio Di Rupo a-t-elle pesé dans la balance ? Oui, selon certaines sources proches du dossier.
Le PS et Elio Di Rupo en avaient fait un point central. Il n'était pas question de toucher à ça.
C'était de notoriété publique que Di Rupo aurait fait un très gros problème au niveau du gouvernement wallon si on avait bloqué le projet.
À partir du moment où Elio Di Rupo était président du PS, il avait quand même les cartes en main pour imposer ça à la région via ses ministres à lui.
Des accusations fantasques selon Elio Di Rupo.
C'est de la fantaisie ce que vous me racontez. C'est de la fantaisie. Est-ce que vous imaginez une seule seconde qu'on aille dire, dans un accord du gouvernement, il faut donner une autorisation quelconque ? Il n'y a rien de politique dans la démarche de la SNCB.
Voilà pour la réponse d'Elio Di Rupo. Reste que le concours portait à la base sur la construction d'une passerelle et la rénovation de l'ancienne gare. Une gare qui, aujourd'hui, n'existe plus. Elle a été rasée pour laisser place à une toute nouvelle. Le projet de Santiago Calatrava à 37 millions d'euros a finalement été complètement revu pour devenir une toute nouvelle gare passerelle à 348 millions d'euros. Mais alors comment expliquer cette explosion des budgets ? Modifier le projet à ce point, est-ce bien légal ? À l'époque, je m'étais posé la question, j'avais donc décidé de faire appel à un expert, Thomas Cambier, il est avocat spécialisé en droit des marchés publics.
Et cette modification-là me semble poser un problème juridique assez important dans la mesure où on modifie l'objet radicalement puisqu'on passe au moment du concours à un marché qui porte essentiellement sur la conception d'une passerelle et à ce moment-là, il n'est pas question de toucher à la gare vers un projet qui consiste à construire une nouvelle gare. Donc là, c'est plus du tout le même objet. Et accessoirement, c'est plus du tout le même budget non plus. Donc ces deux éléments-là conduisent à considérer qu'on est face à une modification qui risquerait d'être qualifiée de substantielle et donc d'illégale si elle devait être contrôlée par un juge. Oui.
Vous avez bien entendu. Selon Thomas Cambier, cette modification du cahier des charges est bien illégale.
Chers voyageurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare de Mons, Mons gare terminus.
Alors comment expliquer le passage du projet de passerelle au projet de nouvelle gare ? Qu'est-ce qui justifie l'explosion du budget de 37 à 348 millions d'euros aujourd'hui ? Pour obtenir des réponses, j'ai rencontré Patrice Couchard. Il est directeur général station à la SNCB. C'est lui qui gère les investissements dans les gares.
Comment on passe du projet A au projet B ?
Écoutez, il faudra que je vérifie cette phase de transition parce que dans les informations dont moi je dispose, on ne parle que d'un seul concours d'architecture dans lequel il y avait effectivement six participants. et donc dont monsieur Calatrava a été le lauréat, donc, et qui comportait donc le projet qui est celui que nous avons aujourd'hui devant nous.
Bon, difficile pour Patrice Couchard de répondre à cette question. Il faut dire qu'il n'est là que depuis 3 ans. À la base, c'est Eurogar, la filiale de la SNCB, qui est chargée de la construction des gares. À sa tête, c'était un autre homme, Vincent Bourlard, un poids lourd à la SNCB. Il a été responsable des gares pendant plus de 10 ans. La gare de Liège-Guimin, signée, elle aussi, Santiago Calatrava, c'est lui. Bref, c'était l'homme à qui parler. Sauf que pendant des mois, j'ai demandé à pouvoir faire son interview, mais la SNCB a systématiquement refusé. Finalement, après l'interview de Patrice Couchard, la SNCB me donnera quelques précisions par mail.
Comme dans tout projet d'aménagement d'un site de gare, le concept de base est peaufiné pendant la phase d'étude. Une révision de l'avant-projet s'est avérée une solution plus appropriée. C'est donc l'ensemble de ces réflexions qui a fait évoluer la concrétisation du concept vers le projet final.
Le projet a donc été peaufiné. Bon, reste la question de l'illégalité du marché public. Alors, n'aurait-il pas fallu refaire un concours d'architecture ? Réponse de Patrice Couchard.
Tout à fait, mais donc je découvre le document, donc je ne peux pas me prononcer dessus, je n'ai pas d'autres informations que celles que je viens de vous donner. Mais effectivement, si on change l'objet d'un marché, il faut refaire le marché. Tout à fait.
Bon, je crois que c'est le moment de résumer un peu. Jusqu'ici, on a compris que la SNCB devait à la base construire une passerelle. Pour mener les travaux à bien, elle a confié la gestion du chantier à sa filiale Eurogar. La SNCB a ensuite organisé un concours remporté par le très célèbre Santiago Calatrava. Ensuite, le projet a évolué. D'une passerelle, il s'est transformé en une toute nouvelle gare et le budget a explosé, passant de 37 à 348 millions d'euros. Le tout sans refaire de marché public, une procédure illégale. Ça, c'est ce qui explique l'augmentation des budgets. Mais qu'en est-il des retards ? Pourquoi cette gare n'est-elle toujours pas finie aujourd'hui ? Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur l'élément central de la gare, la charpente métallique. C'est un peu la colonne vertébrale de la gare. Et pour la SNCB, sa construction ne s'est pas déroulée sans encombre. Ce serait même la cause de pas mal de retards. Au départ, l'entreprise chargée de la construire, cette charpente, est italienne. Son nom, la Cordioli. Sauf que quelques temps après avoir commencé les travaux, les choses se gâtent.
Sur le chantier, tout est figé depuis presque un mois et risque bien de l'être encore un certain temps. Il y a 4 jours, Eurogar, gestionnaire du chantier, a rompu le contrat qui le liait à Cordioli, l'entreprise italienne chargée de la fameuse passerelle Calatrava.
Selon la SNCB, la Cordioli était tombée en faillite. C'est pour ça qu'il a fallu rompre le contrat. Cette analyse, il y a un homme qui la conteste formellement. C'est l'ex-patron de Cordioli, Bruno Tosoni. Je l'avais rencontré dans son bureau à Vérone.
La résiliation d'un contrat crée des dommages importants, autant en termes de temps qu'en termes financiers. Et moi, je pense que le fait que la gare n'est pas encore terminée est la démonstration que résilier un contrat et passer à un autre prestataire si celui-ci est en faillite, ça peut avoir du sens. Mais la Cordioli n'était pas en faillite. Et ça, je l'ai expliqué à Eurogar et au service juridique de la SNCB.
Bon, ici c'est un peu la parole de l'un contre la parole de l'autre. Impossible aujourd'hui de savoir si Cordioli aurait bien fini le travail. Mais lors de ma rencontre avec Bruno Tosoni, il me fait part d'autre chose. Selon lui, après la rupture du contrat avec la SNCB, près de 800 tonnes de pièces destinées à la charpente métallique de la gare sont restées immobilisées sur le parking de Cordioli à Vérone. La SNCB ne les récupérera jamais. Résultat, la SNCB va donc relancer des procédures de marché public. Au total, 4 entreprises vont se succéder pour tenter de finir cette charpente métallique. Des entreprises comme celle de Frédéric Loriot. Il dirige CIT Blaton. Après la rupture du contrat avec Cordioli, c'est lui qui reprend le chantier. Et pour lui, dès le début, c'était très compliqué.
C'est un peu comme si on vous donnait un puzzle, on vous donnait un modèle, une image de ce que vous devez construire comme puzzle. D'abord, Vous ne savez pas exactement si vous avez toutes les pièces, vous ne savez pas quelles pièces manquent, et on vous dit le modèle, il n'est peut-être pas tout à fait bon. Donc c'est comme ça qu'on est parti. C'est comme ça qu'on a démarré le chantier, et ça a été comme ça jusqu'à la fin.
Donc pour vous, les délais n'ont pas été respectés parce que la tâche à accomplir n'était pas suffisamment claire?
Parce qu'on n'avait pas les éléments pour pouvoir, d'une part, appréhender la tâche, et d'autre part, ils nous ont été fournis au fur et à mesure.
Au final, le chantier prendra plus d'un an de retard.
Une extension de délai, pareil, c'est quelque chose de courant sur un chantier ou pas?
Non, c'est pas courant. Dans un cadre normal, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça parce que l'entrepreneur a la responsabilité complète. Mais ici, Eurogar n'avait pas un entrepreneur général complet, puisque la conception du montage et de l'ensemble du montage était chez Cordioli. Ils se sont réappropriés ça. Et ce ne sont pas des experts en la matière. Et donc je pense qu'ils sont appuyés et encadrés par des bureaux d'études. Ils n'ont pas pris la mesure à la base de la complexité de faire le travail d'un entrepreneur.
En tentant d'assurer la reprise du chantier de la charpente métallique, Eurogar aurait donc fait pire que mieux. Aujourd'hui, plus de 10 ans après le début du chantier, la gare n'est toujours pas terminée. Alors le chantier a-t-il été mal géré? Réponse de Patrice Couchard, directeur station à la SNCB.
Je pense que la gestion du chantier, je dirais pas qu'elle est mauvaise, mais on doit en tirer un certain nombre de leçons, ça c'est sûr.
Un projet trop ambitieux pour Mons?
Le projet est très ambitieux, oui. Il est très ambitieux.
Trop?
Je pense que si on devait aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, refaire un projet à Mons, il serait dimensionné d'une façon probablement un peu différente. Je crois que par rapport, comme je l'ai dit, aux moyens dont on dispose et aux priorités de la SNCB qui ne concernent plus uniquement quelques dizaines de grandes gares, mais la majorité de son réseau, on ferait probablement un projet qui serait moins ambitieux. Voilà. Et avec un planning plus réaliste et un budget plus serré.
Un projet moins ambitieux et un budget plus serré. Reste qu'aujourd'hui, la gare de Mons n'est toujours pas terminée. Et lorsque je demande à la SNCB une date de mise en service, elle n'ose plus en fixer. En attendant, les Montois vont donc encore devoir faire preuve de patience.
Nous sommes de retour en studio avec nos invités. Bart Jourquin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en économie des transports à l'UC Louvain et en liaison téléphonique avec nous, Nicolas Parent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un ancien député fédéral écolo. La gare de Mons, vous la connaissez bien puisque vous avez été à l'initiative d'un vote au Parlement qui a permis de réaliser ce fameux audit de la Cour des comptes autour de ce chantier. Cette demande d'audit, vous l'avez formulée à la suite de la diffusion de notre enquête?
Exactement. On a déposé cette demande d'avoir une majorité pour faire cette demande d'audit à la Cour des comptes et on a obtenu cette majorité large au Parlement qui l'a adoptée à l'unanimité. Puis le travail s'est poursuivi pendant plus ou moins un an avant d'avoir les conclusions donc l'année dernière.
Martin Collier, cet audit publié, on l'a dit, en septembre 2022, qu'est-ce qu'il dit exactement ?
Eh bien, pour faire bref, il confirme tout ce qu'on a dit dans l'enquête. Prenons les budgets d'abord. Vous l'avez entendu, ils ont littéralement explosé, passant de 37 millions d'euros pour le premier projet de passerelle à 332 millions d'euros pour la nouvelle gare. Dans son rapport, eh bien, la Cour des comptes pointe un manque de transparence dans le suivi des budgets. Je vous lis quelques extraits parlants. On parle de données budgétaires lacunaires, de variations de budget peu expliquées, de problèmes de transparence dans les honoraires d'Eurogare. Donc, vous rappelez, Eurogare, c'est la filiale de la SNCB en charge de la construction des gares, en tout cas à ce moment-là.
La Cour des comptes, elle s'est aussi intéressée au marché public. Selon l'expert que vous avez rencontré, lorsque le projet de passerelle, le projet initial est modifié pour devenir une toute nouvelle gare, ça invalide en fait ce marché public qui devenait illégal.
Oui, et la Cour des comptes ne dit pas autre chose en fait. Elle relève, je cite, « des indices qui auraient pu justifier le lancement d'une nouvelle procédure de passation ». Comprenez qu'en fait, il aurait fallu refaire un marché public.
Alors ça, c'est pour ce qu'on savait déjà, entre guillemets. Dans son rapport, la Cour des comptes, elle pointe aussi un nouvel élément. Il concerne Santiago Calatrava, l'architecte de la gare de Mons. Et selon le rapport, cet architecte aurait été favorisé.
Oui, alors pour bien comprendre, il faut remonter à 2004. On est 2 ans avant le concours qui doit désigner le futur architecte de la gare. En 2004, donc, Santiago Calatrava réalise une étude d'incidence pour le projet de la future gare. Une étude qui est commandée par la SNCB et qu'il réalise alors gratuitement. Grâce à cette étude, il aura donc accès à toute une série d'informations qui le placeront en très bonne position 2 ans plus tard, au moment du concours. Il rendra d'ailleurs à l'époque, en 2004, un projet qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui du concours. Pour la Cour des comptes, il y a donc, je cite, des lacunes relatives à la transparence et au respect du principe d'égalité et de mise en concurrence.
Nicolas Apparent, on le voit, le bilan, il n'est pas très positif. Quel regard vous portez sur ce dossier, cette saga, on peut dire, de la gare de Mons?
Je suis content qu'en 2022, en fait, on a réussi à apporter de la clarté, de la transparence. Vous avez bien fait de faire le lien avec le reportage de la RTBF parce que les médias, ici, le reportage d'investigation que vous avez réalisé a été jusqu'au bout des choses et s'est confronté aussi à des discours officiels, à des versions des uns et des autres. Et la Cour des comptes, en fait, a mis sur noir sur blanc en fait la vérité telle qu'elle était sur base d'archives, sur base de documents officiels. Donc je suis content qu'au niveau démocratique on ait pu depuis le Parlement faire toute la transparence sur ce dossier. Je pense que c'est important en démocratie que on puisse avoir cette transparence et cette vérité. C'est important dans une démocratie moderne. Et effectivement, par rapport au dossier en tant que tel, les constats sont nombreux, ils sont accablants par rapport à la manière dont ce dossier a été géré, en tout cas avant le lancement de la phase de réalisation des travaux, c'est-à-dire au moment de la conception, donc au moment où on a, perdu le fil entre un projet modeste et positif et un projet pharaonique.
Justement, ce rapport de la Cour des comptes, il a été publié il y a presque 1 an. Qu'est-ce qu'il a eu comme suite, comme conséquence ?
Bien, d'une part, depuis le Parlement, on a pu questionner Madame Dutordoir, donc la CIO de la SNCB, qui est venue en commission pour présenter les perspectives pour la SNCB. Et dans ce cadre-là, je lui ai posé des questions directement sur le rapport de la Cour des comptes. Donc, on a eu cet échange démocratique. Mais plus fondamentalement, il faut savoir que le rapport et l'audit de la Cour des comptes, ils tombent à un moment clé, à savoir l'aboutissement des négociations entre le gouvernement fédéral et la SNCB sur son contrat de gestion, c'est-à-dire sur le contrat qui va baliser tout son travail dans les 10 prochaines années, le contrat de service public, en fait, dans lequel on va insérer le gouvernement fédéral et donc le ministre de la Mobilité va insérer des règles de gouvernance qui sont basées sur les conclusions du rapport de la Cour des comptes.
Donc ça va servir au futur contrat de gestion, on l'entend, de la SNCB, mais il n'y a pas vraiment de sanctions sur ceux qui ont géré ce dossier de la gare de Mons.
Effectivement, il n'y a pas de sanctions. Et je dirais qu'on s'est posé la question. J'ai fait travailler des personnes sur cette réflexion, sur jusqu'où on peut aller au niveau plutôt justice, etc., par rapport aux suites et aux conclusions. Mais honnêtement, quand on voit les responsabilités, elles sont éparses. Donc on ne peut pas pointer un acteur en particulier. Par rapport à l'État, c'est difficile d'estimer que l'État est lésé par rapport à la SNCB ou par rapport à Eurogare, dès lors que l'État a failli à différents échelons, que ce soit la SNCB ou les ministres de tutelle. Donc finalement, voilà, qui est responsable de quoi ? Chacun aurait pu se renvoyer la balle finalement. Donc je pense qu'au niveau responsabilité, elles sont diffuses, elles sont nombreuses aussi.
Bart Jourquin, vous êtes toujours avec nous. Donc vous êtes professeur en économie des transports à l'UC Louvain. En tant qu'expert, vous, quel regard vous portez sur toute cette affaire ?
Il y a différents aspects qu'il faut tenir en considération. Une politique qui a été très longtemps menée par la SNCB, ça a été de favoriser finalement un certain nombre de grandes gares de prestige qui consommaient pas mal de budget au détriment finalement de la consolidation ou de l'amélioration du réseau et de l'effet réseau, c'est-à-dire de permettre à toutes les gares, même des gares plus petites, d'avoir une capacité d'accueil, une qualité d'accueil suffisante pour rendre le transport ferroviaire attractif. Et donc on a été plutôt dans une logique je dirais un peu de luxe, hein, ou un peu de tape à l'œil, avec quelques grands ou très grands investissements même, et qui ont commencé bien avant la gare de Mons. On parle ici d'un architecte, il ne faut pas oublier que c'est le même qui est à l'origine de la gare de Liège.
Mais justement, le budget, il n'est pas extensible. Donc, quand on met autant de moyens sur la gare de Mons ou sur la gare de Liège précédemment, il y a d'autres gares qui en pâtissent. Il y a d'autres chantiers qu'on n'a pas pu mener où il y a eu d'autres impacts concrets sur le réseau ferroviaire.
Mais évidemment, il y a une règle non écrite qu'on appelle la clé 60-40. Ça veut dire que lorsque l'État donne 100 euros à la SNCB, aujourd'hui, on donne 60 euros à la Flandre et 40 à la Wallonie. Cette clé n'a jamais été remise en question, très très peu. Et ce que les gens oublient souvent, c'est que quand on donne 100 euros dans un plan d'investissement, il ne s'agit pas forcément d'extension de capacité. Il s'agit aussi de maintenir le réseau existant. Or, les réseaux flamands et wallons sont à peu près identiques en termes de kilométrage. Le réseau wallon étant même parfois un peu plus compliqué à entretenir parce qu'il y a des ponts, il y a des ouvrages d'art plus nombreux qu'en Flandre. Et ça représente beaucoup. Donc l'entretien, le maintien de capacité représente beaucoup. À la grosse loupe, je dirais à peu près 60% de l'ensemble. Ça veut dire que la Flandre dispose encore de 30% pour faire des investissements nouveaux et la Wallonie que 10%. Donc c'est quand même très peu. Et si en plus, dans ces 10-là, on fait le choix d'investir dans des projets qu'on pourrait même peut-être qualifier de pharaoniques, ça pose question.
Mais donc concrètement, pour résumer, quand on investit dans des grandes gares à l'époque, avec cette règle des 60-40, en fait, on désinvestit ou on n'investit pas suffisamment dans le réseau, dans l'accueil, dans des plus petites gares, etc.
Évidemment. Il y a deux éléments qui ont fort grevé les investissements et qui sont en fait effectivement les grandes gares, mais aussi, et ça peut être évidemment beaucoup plus légitime, la question de la sécurisation des voies de chemin de fer et les systèmes de sécurisation ont coûté très cher également. Ce qui veut dire qu'à la fin, l'argent disponible pour de nouveaux projets, la modernisation des petites gares, l'amélioration de la vitesse commerciale sur certaines lignes qui sont très sinueuses, etc., etc., eh bien, on pâtisse.
On a tellement investi à Mons, alors que finalement, c'est loin d'être la gare la plus fréquentée de Wallonie.
C'est un constat.
Ben oui, parce qu'on peut l'étayer ce constat. Justement, la gare de Mons, c'est à peu près 9000 voyageurs par jour, alors que Otigny, c'est 20 000 voyageurs par jour. Aujourd'hui, il y a un projet, c'est la première gare wallonne. Si aujourd'hui, il y a un projet pour rénover cette gare, qui en a besoin, effectivement, on a un budget de 83 millions d'euros. C'est quand même trois fois moins que ce qui a été investi à Mons. Justement, Nicolas Parent, on en parlait, un autre élément qui ressort de cet audit, c'est le manque de contrôle. Hein, on en parlait du manque de suivi dans les budgets. Dans cet audit de la Cour des comptes, elle explique que le SPF Mobilité, qui est normalement en charge de ce contrôle, il n'a pas reçu suffisamment d'éléments et il n'a pas non plus les outils suffisants, notamment en termes de personnel, pour exercer ce suivi. Est-ce que maintenant, ça a changé ?
En tout cas, j'aimerais d'abord revenir sur le passé pour dire que c'est pas tant le fait qu'il n'y avait pas de règles à l'époque, c'est plutôt qu'il y a eu une volonté de contourner les règles. C'est-à-dire que des règles, il y en a, elles sont très claires. Entre la SNCB et l'État fédéral, il y a d'abord un contrat de gestion. Et dans ce contrat de gestion, à l'époque, tous les investissements supérieurs à 25 millions d'euros devaient faire l'objet d'une étude critique sur le poids de ces investissements, la lourdeur de ces investissements, leur impact, etc. Ça n'a pas été fait. Deuxièmement, il y a un plan pluriannuel d'investissement qui doit permettre un peu de voir les balises qu'on s'est fixées en fonction des moyens des entités ferroviaires et de voir si ces balises sont respectées au fil du temps. Dans ce cadre-là, à l'époque, au moment où le budget dérape, en fait, on a des chiffres qui ne sont pas actualisés. Et donc, le contrôleur ne met pas les warnings au moment clé, en fait. Et donc, effectivement, il y a eu un meilleur suivi du SPF Mobilité, qui est en fait l'administration fédérale de la mobilité, hein, qui dépend du ministre. À un moment donné, il y a eu une amélioration du suivi, mais au moment où ça a dérapé, il n'y a pas eu les warnings. Et donc là, il y a une faille énorme en matière de gouvernance. Aujourd'hui, évidemment, sur base notamment des conclusions du rapport de la Cour des comptes, dans les contrats qui balisent les 10 prochaines années, il y a effectivement un meilleur rapportage qui est prévu, un rapportage trimestriel pour les budgets importants. Il y a des procédures d'alerte aussi du ministre en cas de dérapage et en cas où dans le cas où on constate qu'il y a un budget qui ne correspond plus à ce qui avait été estimé à la base. Par exemple, vous citez le cas d'Otigny-Louvain-la-Neuve. Si à un moment donné, le budget pour X ou X raisons dérape, il y aura un warning et il y aura une réflexion qui sera collective et partagée, ce qui, dans le cas de la gare de Mons, n'a pas du tout été le cas. On a gardé l'information la plus opaque le plus longtemps possible.
Alors, à la suite de l'audit, Nicolas Parent, pour Écolo, vous aviez formulé une proposition de résolution pour justement quand même améliorer ce suivi des chantiers par le SPF Mobilité et Transport. Est-ce que ça, ça a été entendu ?
Mais comme je vous l'ai dit, effectivement, au niveau du timing, le rapport de la Cour des comptes tombait bien, puisqu'il y avait ces négociations finales entre le gouvernement et la SNCB pour les contrats de gestion et donc pour les balises futures en matière de gouvernance. Ce que j'ai fait, effectivement, c'est une proposition déposée au Parlement qui se base sur les conclusions de la Cour des comptes pour améliorer la gouvernance au niveau des entités ferroviaires, donc de la SNCB. Et dans le rush final entre le gouvernement et la SNCB, la plupart des propositions que j'avais formulées s'y retrouvent. Et donc, pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, la première chose, c'est la sobriété des investissements. Donc, des investissements sobres, justement proportionnés, qui correspondent à une réalité des besoins et qui correspondent aux enjeux actuels, c'est-à-dire une meilleure accessibilité des gares, une meilleure intermodalité aussi, donc pouvoir passer du train au bus, au vélo, etc. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un meilleur suivi des investissements ferroviaires via un renfort du rôle du SPF Mobilité, donc de l'administration mobilité, mais aussi un meilleur rapportage. Et donc, le SPF Mobilité, si il constate qu'il y a des manquements, qu'il y a des erreurs ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il a mandat pour faire plus de visites de terrain, mandater un bureau d'experts extérieurs au dossier, etc. Donc, ce sont des balises. Maintenant, pour le futur, il faudra effectivement que le SPF Mobilité ait les moyens de ces missions-là. Et donc, dans les budgets futurs au niveau du gouvernement fédéral, il faudra s'assurer que l'administration soit solidement dotée, parce que sinon, c'est comme en matière de fraude fiscale, si on n'a pas les agents pour contrôler, le budget continuera à s'envoler dans les paradis fiscaux.
Martin Collier, alors ce contrat de gestion de la SNCB, on vient déjà d'en évoquer certains aspects. Il va courir donc pour les 10 prochaines années. Il y a d'autres éléments que vous pouvez mettre en avant?
Oui, bah alors on a cité quelques-uns des indicateurs, effectivement. Bon, il y a des grands objectifs, par exemple augmenter le nombre de trains d'à peu près 10% avec des amplitudes horaires plus importantes, donc plus de trains le matin, plus de trains le soir, des trains plus récents, plus sûrs aussi. On en a parlé avec Monsieur Jourquin aussi. La SNCB veut renouveler par exemple 50% de la flotte, si vous voulez, des trains qui ont un âge moyen de 25 ans. Il y a les gares, ça c'est ce qui nous intéresse plus précisément. Alors c'est vrai que dans ce que j'ai lu, en tout cas du contrat de gestion, on n'en dit pas grand-chose, à part une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Là, il y a à peu près 2 milliards qui sont prévus là-dessus. Effectivement, des gares multimodales, comme vous disiez, donc avec des accès vélo, des parkings aussi pour favoriser la venue de navetteurs, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau des investissements, en tout cas de ce que j'en ai lu, il n'y a pas grand-chose qui est expliqué, même si vous le disiez, il y a quelques balises aussi. Et puis, il y a des indicateurs de performance, une dizaine en tout, et c'est vrai que, on parle de ponctualité, de respect de l'offre, de satisfaction client, d'accessibilité des gares, de places de parking, etc. Mais c'est vrai que ce qu'on se pose comme question, véritablement, à la suite de ces indicateurs, si vous voulez, c'est est-ce qu'il y a au final suffisamment de garde-fous maintenant pour éviter que des gabegies financières comme on l'a connu, ou en tout cas une certaine démesure et un manque de suivi dans les budgets SNCB pour des grandes gares comme celle de Mons, est-ce qu'aujourd'hui, Nicolas Parent, il y a assez de garde-fous maintenant dans ce contrat de gestion pour éviter que ça se reproduise dans le futur?
Je l'espère. je l'espère.
On ne sent pas sûr, là.
Mais comme je vous l'ai dit, le départ de l'historique de la gare de Mons, ce n'est pas il y a 30 ans, dans une époque folle, etc. C'est assez récent. Mais ici, évidemment, on a toutes les conclusions de cette enquête et la Cour des comptes a fait aussi d'autres audits sur la gare, par exemple, Gand-Saint-Pierre. Peut-être que d'autres audits viendront compléter ce regard des pouvoirs publics sur les investissements ferroviaires. Ici, il y a des balises qui sont fixées pour avoir un suivi à la culotte pour les gros projets ferroviaires, pour effectivement que le SPF Mobilité puisse alerter en cas de dérapage beaucoup plus rapidement, par exemple le ministre de tutelle, ou adresser un signal clair à la SNCB pour dire « ça ne va pas ». Je pense que chaque euro investi aujourd'hui doit être bien investi et que la SNCB a beaucoup de retard à rattraper par rapport à des missions premières et que donc ça fait l'objet d'un suivi parlementaire très vigilant. Mais la vigilance tant du Parlement que de la presse ou d'autres, via des rapports de la Cour des comptes, via des avis extérieurs, les experts universitaires aussi, ça doit nous amener à continuer à vérifier comment sont investis l'argent public dans les entreprises ferroviaires, parce que il y a encore d'autres gros dossiers qui sont sur la table, par exemple le siège de la SNCB par rapport à la gare de Tigny-le-Val-la-Neuve. Il y a le projet Diabolo aussi qui coûte énormément quand on prend le train pour aller à Zaventem. Et dans ce type de dossier, dans le suivi, il faudra que la SNCB démontre qu'elle fasse l'objet de transparence en permanence. Et ça, aujourd'hui, je n'ai pas eu ce moment de vérité avec la CIO de la SNCB cette année-ci. J'aurais espéré l'avoir pour vérifier effectivement si, en termes de philosophie, de culture d'entreprise, il y a une volonté d'être transparent. Et ça, c'est un des défis et un des enjeux certainement pour les mois et les années à venir.
Barjourquin, donc vous êtes professeur en économie des transports. Votre avis à vous sur ce nouveau contrat de gestion de la SNCB, est-ce qu'il répond aux attentes, aux besoins du futur, de la société dans le futur ?
En fait, c'est relativement compliqué de répondre à cette question. Si vous prenez le train le matin et que vous habitez Mons-Tournai, enfin un peu loin, pour venir travailler à Bruxelles, eh bien, le fait d'avoir, par exemple, un service de lavoir sur place qui vous permet de déposer votre linge et le reprendre quand vous revenez le soir, d'avoir une petite supérette, vous pouvez avoir plein de services annexes qui vont permettre aux gares de dépasser leur simple rôle d'accueil de voyageurs pour devenir un vrai nœud de service. Et donc, il y a vraiment encore une marge de progression qui aujourd'hui n'est pas encore coulée dans ces contrats de gestion.
Mais ce qui est sûr, Barjourquin, c'est que les gares cathédrales, c'est fini à la SNCB.
Je dirais que pour le moment, ça se calme un peu, on va le dire comme ça. Moi, je n'ai pas de boule de cristal non plus. Hein. Donc, pour venir un petit peu dans l'histoire, au moment où, jusqu'avant la cession en deux entités, donc c'est à ce moment-là qu'a été prise, par exemple, la décision de la construction de la gare de Liège.
Vous étiez à ce moment-là dans le conseil d'administration de la SNCB ?
Et j'étais moi-même dans le conseil d'administration de la SNCB, effectivement. Moi, à l'époque, j'ai toujours plaidé pour investir beaucoup plus dans les petites gares pour créer l'effet de réseau et rendre l'ensemble du système attractif. Mais le modèle de gouvernance de la SNCB à l'époque, aujourd'hui, on l'imagine peut-être même plus, mais au conseil d'administration, vous aviez l'ensemble du comité de direction, plus des administrateurs extérieurs. Et donc, ça veut dire que rien que le CEO de l'époque, qui était M. Scoop, et ses administrateurs directeurs représentaient plus d'un tiers du conseil d'administration. Et donc, il suffisait d'avoir l'un ou l'autre accord avec des administrateurs, et c'est un secret de polichinelle que de dire que si vous êtes au conseil d'administration de la SNCB, c'est parce qu'il y a le respect d'un certain nombre de partages avec des couleurs politiques. Alors, certains partis choisissent de faire appel à des gens qui sont du métier, qui connaissent la mobilité, etc. D'autres envoient au conseil d'administration des gens qui n'ont pas forcément les compétences pour y être.
Mais donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'à l'époque, il y avait peu de marge de manœuvre, en fait.
Le CEO de l'époque pouvait très, très vite bloquer le conseil d'administration.
Mais ça serait plus possible, ça, aujourd'hui. Il y avait cette philosophie, cette envie d'avoir des gares un peu spectaculaires, mais aujourd'hui, il y a quand même eu une prise de conscience, non ?
Aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Je pense qu'au moment où on a revu la gouvernance, si je me souviens bien, c'était en 2002, donc à ce moment-là, les administrateurs directeurs n'existaient plus, donc le comité de direction, à part le CEO, ne participait plus aux réunions de conseil d'administration, donc ça ouvrait un peu plus le jeu. Et donc, ce qui s'est passé avec Mons n'aurait pas dû se passer. Et donc, le fait, effectivement, de commencer par un projet qui était un projet de passerelle, et je comprends très bien que les administrateurs, à l'époque, n'ont pas été contre ce projet-là, même probablement qu'ils n'ont pas su tout ce qui s'est passé avant le concours, etc. Mais enfin, je veux dire, ça avait une certaine logique. Et ici, on est vraiment dans quelque chose qui a été manipulé. Donc, on est parti d'un projet, je dirais, raisonnable vers quelque chose de beaucoup plus pharaonique. Moi, je n'étais pas au conseil d'administration à l'époque. Je ne sais pas comment les discussions ont eu lieu. Je ne fais que constater que finalement, tout ça a bien eu lieu.
Brièvement, Nicolas Parent, ces gares cathédrales, pour vous, ça n'arrivera plus ?
Je l'espère. Encore une fois, mais au niveau des villes importantes, je pense que là, on a quand même une couverture. On a parlé de Tigny, Namur, ça vient d'être fait. Donc, je pense qu'en termes de besoins, c'est rencontré. Maintenant, dans la philosophie de la SNCB, on vient encore d'avoir récemment une proposition du comité de direction de fermer des points d'arrêt par rapport à ce qui vient d'être dit sur la balance entre les grandes gares, les grandes villes par rapport à la densité du réseau. on a encore un problème de philosophie de la SNCB qui ne travaille pas assez de manière capillaire, c'est-à-dire de vouloir aller chercher les usagers là où ils sont pour les ramener. Et donc là, ça amènera d'autres débats dans les années à venir. Mais les gares pharaoniques, j'espère que c'est effectivement une page du passé qu'on devra et qu'on a maintenant des conclusions suffisantes pour protéger le futur.
Précisons encore justement que j'avais invité la SNCB à participer à ce débat, mais qu'ils n'ont pas souhaité le faire.
C'est la fin de cette investigation. Merci à nos invités, merci à Amaury Boucher pour la réalisation de ce podcast et merci à vous qui nous écoutez.